Mystère par Lucie de la rue Mardrus. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri ? Disait le jeune marié. Ces deux portraits-là traînent dans la famille depuis plusieurs générations. Il n'y a plus que ma grand-tante de Géminier, cette vieille folle, qui sache ce que c'est. Mais comme il y a 100 ans qu'on est fâché avec elle. La jeune femme fut songeuse. Elle examinait alternativement les deux toiles dans leur cadre un peu dédoré. En somme, ça m'est égal, répondit-elle. Ça fait ancêtre, c'est tout. Avec le genre du salon, c'est exactement ce qu'il nous faut. » Elle réfléchit un instant et conclut. « J'en mettrai un sur ce panneau, l'autre en face. » Puis, « Tu vas seulement me conseiller, Raoul. Le jeune homme en perruque blanche fera-t-il mieux là que l'autre jeune homme avec sa peau de panthère ?» Raoul se mit à rire. « Tu demandes son avis à un ingénieur électricien. Tu sais pourtant que je ne connais rien au style, comme tu dis. Tu m'avais annoncé que tu te chargerais de nous meubler puisque tu es une fille d'antiquaire. » Mais tu sais bien que je te fais confiance, mon vieux. » Avec cela, mon vieux, qui n'avait pas 25 ans, resta dans sa perplexité. C'était une mince jeune personne aux boucles blondes, aux yeux bleus, ce qui se fait de plus lumineux, de plus clair, et naturellement, elle prenait grand soin de se farder avec des ocres qui lui donnaient le teint d'une mulâtresse. En pyjama de soie, au milieu du désordre de l'emménagement, elle regardait son joli mari vêtu comme elle à peu près, un garçon lisse, cheveux noirs furieusement collés aux cosmétiques, visage rasé jusqu'à disparition totale de toute ombre. « C'est bien la peine, bougonna-t-elle, d'avoir une mère aristocrate, pour ne rien connaître au style. »«
Une mère aristocrate, oui, mais un père industriel, alias épicier enrichi. À notre époque, on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, tu sais. »«
Eh bien, puisque c'est comme ça, je mets la perruque blanche ici, la peau de panthère là. Tu peux du moins m'aider à les accrocher. » Tandis qu'il maniait tout de l'échelle, les pitons, le marteau. Chez nous, remarqua Raoul, la perruque était dans le salon et la panthère dans la salle à manger. Ça laisse 2 trous à la maison, mais maman s'en arrangera, puisque ces vieux machins te faisaient envie. Une fois les portraits en place, tout en allumant sa cigarette à celle de sa femme, il convint que l'effet était très heureux. Et maintenant, s'anima Nicole, il ne reste plus qu'à trouver la place des meubles. Éreintés par cette première journée dans leur petit appartement d'amoureux, ils dormaient dans les bras l'un de l'autre au creux du vaste lit qui dans la journée serait un divan. La chambre à coucher continuait le tohu-bohu du salon contigu. Caisses pleines de paille, paniers gonflés de bibelots, mobilier entassé au hasard. Vers minuit, le bruit d'une sourde et lourde chute, justement dans le salon, les réveilla brutalement. Effarés, ne sachant plus où ils étaient, tâtonnant pour retrouver l'électricité. « Raoul, j'ai peur. »« Attends donc, mon vieux, je vais y aller voir. »« Si seulement je trouvais la lumière. »« Oh mon Dieu, tu as ton revolver. »«
Penses-tu ? » ?»« Il est encore emballé dans le panier à linge. »« Allons, ne tremble pas comme ça. »
Quand il eut enfin tourné le commutateur, Nicole, qui grelottait dans son pyjama nocturne, bondit derrière son mari, pleine de son courage d'amoureuse, pour lui porter secours au besoin. À la porte du salon, double exclamation. L'un des portraits, celui qui portait la perruque blanche, était par terre, et l'on voyait tout de suite que l'or du cadre avait subi de grands dommages dans cette culbute.
« J'aime mieux ça que des cambrioleurs !» s'écria Nicole. « Mais quel malheur tout de même, mon beau cadre !»
Et sa terreur, définitivement passée, elle attaqua. « C'est de ta faute aussi. Tu as dû fixer ton piton de travers !» Protestation du mari, petite dispute. Ensuite, ils examinèrent le tableau méticuleusement. La peinture n'avait pas souffert. Le cadre était réparable. Ils se recouchèrent, calmés. 10 jours plus tard, le salon à peu près en ordre, ce fut comme Nicole, le dîner fini, servait le café qu'elle venait de préparer. Elle se penchait vers son mari pour l'embrasser. Un craquement au mur l'arrêta net. L'autre portrait, celui de la peau de panthère, venait de casser sa corde. Les deux jeunes gens n'eurent que le temps de se précipiter pour arrêter la chute sur le parquet. Stupéfait, il se dévisageait. « J'ai pourtant vérifié l'autre jour pour être sûr que ça tenait bien. » Ils reprirent l'échelle. Le piton était en place, la corde neuve. « Le nœud a sans doute été mal fait, » murmura Nicole. « Sans doute, » répondit Raoul. « Mais ils étaient assez impressionnés. » Ils le furent encore davantage quand, à la fin de la semaine, les deux portraits, à quelques heures de distance, se détachèrent une seconde fois du mur. « Ça doit être la trépidation, » expliquait Raoul. Cependant, il ne se pressa pas, cette fois, de raccrocher. « Tu feras venir des ouvriers, » fit-il. «
Moi, je préfère n'avoir plus la responsabilité de ces maudites croûtes. » Les ouvriers ne venaient pas. À peine installés, le salon était déjà déparé. Chacun dans son coin, les tableaux tournés contre le mur attendaient d'être raccrochés. Il fallut plus d'une semaine pour que, demandés d'urgence, ces ouvriers fissent enfin leur apparition. Ils prirent beaucoup de temps pour remettre les cadres en place, sous la surveillance de Nicole agacée. « Ça, on vous garantit que ça tiendra, chacun son métier, vous savez. » Mais, la nuit suivante, phénomène encore plus inexplicable, le jeune homme à la peau de panthère, laissant son cadre au mur, glissa cette fois sans bruit et fut retrouvé le lendemain matin sur le plancher. Une telle sorcellerie finit par effrayer Raoul lui-même, bien qu'il ne voulût pas l'avouer. Nicole parlait de changer d'appartement. Elle prit enfin le plus sage parti. « Puisque ces portraits ont la manie de se décrocher, je les rends à ta mère. Nous mettrons à leur place les grandes gravures que j'avais l'intention de revendre. » Dès lors, frissonnante, elle attendit les nouvelles. Trois fois par jour, elle téléphonait à sa belle-mère. « On les a remis à leur place, » répondait joyeusement celle-ci. « L'un dans le salon, l'autre dans la salle à manger, et personne ne bouge. » Et tant de jours passèrent que le jeune couple eut le temps d'avoir un héritier. C'est dire que la singulière histoire était oubliée. Or, comme il arrive dans les familles, pour des raisons obscures, compliquées et sans doute à base d'intérêt, Raoul et Nicole, étonnés, apprirent un matin que la réconciliation venait de se faire entre la grand-tante de Géminier et le reste de la parenté. C'est pourquoi la vieille dame fit son entrée, inattendue, un après-midi, dans le gentil salon de Nicole, et s'y montra bientôt émue de revoir certains bibelots et même certains meubles qu'elle avait connus dans son enfance. Sur chacun, sa voix chevrotante avait une anecdote à placer. C'était une ancêtre au regard étrange, un peu radoteuse, mais encore pleine de charme. Cependant Nicole, en petite bourgeoise moderne, importunée par la présence des aînés, bâillait à la dérobée tout en allaitant son nouveau-né, pyjama dégrafé, cigarette au bec. Quand elle en eut assez des souvenirs, heureuse d'interrompre l'autre, elle s'écria « Moi aussi, j'ai quelque chose à raconter ». Mais un peu pâle, elle cessa de bâiller et même de fumer quand la grand-tante, après avoir écouté l'histoire, déclara fort tranquillement « Ma belle enfant, ces deux portraits sont ceux de nos cousins, au XVIIIe siècle. Les comtes Horace et Pierre de Géminier, qu'on appelait les frères ennemis. Ils avaient aimé la même femme et ne pouvant se battre en duel chaque fois qu'ils se rencontraient, ils se tournaient simultanément le dos. » Un portrait ressemblant capte l'âme du modèle et devient son double quand le modèle est mort. Chacun dans une pièce différente, Horace et Pierre se tiennent tranquilles. Mais vous les aviez placés face à face dans votre salon, alors. C'était Mystère, par Lucie de la rue Mardrus.